Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de ce point, actualité largement consacrée à la guerre au Moyen-Orient. Un militaire français a été tué dans la région d'Erbil, au Kurdistan irakien. Il s'agit du premier décès au sein de l'armée française dans cette guerre. Les frappes se poursuivent dans la région. En Iran, de puissantes explosions ont à nouveau secoué Téhéran. Au Liban, l'armée israélienne a intensifié ses opérations. Les frappes israéliennes sur le Liban ont tué plus de 700 personnes, dont 103 enfants, et en ont blessé près de 2000 autres depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé. Au 14e jour de la guerre, un militaire français, l'adjudant-chef Arnaud Frion du 7e bataillon de chasseurs alpins de Varsès dans l'Isère, a été tué dans la région d'Erbil, au Kurdistan irakien. Il s'agit du premier décès au sein de l'armée française dans le cadre de cette guerre. 6 autres soldats français ont été blessés dans une attaque de drones dans la même région. Emmanuel Macron a réaffirmé après la mort de ce soldat que la position de la France est purement défensive. Et 6 membres d'équipage d'un avion américain de ravitaillement en carburant sont morts quand leur appareil qui s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak, selon le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, qui précise que la perte de l'appareil n'est pas due à des tirs ennemis. Et les frappes se poursuivent dans toute la région. En Iran, de puissantes explosions ont à nouveau secoué Téhéran, la capitale, où plusieurs hauts dirigeants iraniens ont marché en pleine rue aux côtés d'autres manifestants en signe de défi aux États-Unis et à Israël. Et au Liban, l'armée israélienne a intensifié ses opérations en lançant une série de frappes dans plusieurs régions, dont une qui a détruit un pont sur le fleuve Litani dans le sud du pays. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé être arrivé à Beyrouth pour une visite de solidarité. Il a lancé un appel de fonds d'urgence de 325 millions de dollars pour aider la population libanaise entraînée dans cette guerre. Et les frappes israéliennes sur le Liban ont tué 773 personnes, dont 103 enfants, et en ont blessé près de 2000 autres depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé. Et près de 10 000 touristes français sont rentrés des Émirats arabes unis depuis le début de la guerre, dont environ 1 400 sur des vols affrétés par le gouvernement. La majorité des 60 000 Français qui résident dans les pays du Golfe ont, eux, choisi d'y rester, selon le consul général de France à Dubaï. Dans le reste de l'actualité, Washington a annoncé l'autorisation temporaire de la vente de pétrole russe stocké sur des navires. Une décision saluée par le Kremlin, alors que les revenus pétroliers et gaziers de Moscou ont atteint le plus bas niveau depuis le début de la guerre en Ukraine. Une décision qui n'aide pas à la paix en Ukraine, a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et suite à cette autorisation, les prix du pétrole reculent légèrement et les bourses tentent une reprise. Et enfin, dans l'actualité, en France, la campagne pour le premier tour des élections municipales entre dans son dernier jour avec une participation attendue en hausse sur ce scrutin. Les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 15 mars pour le premier tour. C'est la fin de votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place maintenant au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place au dossier du jour. Premier dossier, l'Iran poursuit ses attaques contre les pays du Golfe, Israël et les intérêts américains dans la région. Au cœur de cette stratégie, les drones auxquels Téhéran fait massivement recours. On en parle avec Guillaume Ancel, écrivain et ancien officier français.
Simplement une offensive aérienne, le régime allait être détruit. En réalité, il a été décapité, mais il se régénère progressivement. Il est affaibli. Mais il n'est absolument pas par terre. Et un des leviers qui lui permet de ne pas être par terre, ce sont ces drones, parce que les drones sont par nature difficiles à détecter. Ce sont des toutes petites cibles, c'est 10 à 50 fois moins important qu'un missile. C'est facile à construire, ça peut être fabriqué dans un atelier qui ressemble à un garage. Et surtout, ça peut être stocké et tiré à partir justement d'un simple... On n'a même pas besoin d'un hangar. Ça peut être le simple garage dans une maison, ça peut être un bateau, y compris d'ailleurs un bateau qui naviguerait sur les côtes américaines. Ça peut être une boîte, un caisson maritime qui s'ouvre et qui laisse partir un drone qui a été préprogrammé. Donc c'est impossible d'imaginer qu'en fait on puisse détruire le stock de drones des Iraniens. Bon, on sait qu'ils en ont fabriqué des dizaines de milliers d'exemplaires puisqu'ils en ont livré des centaines de milliers aux Russes. pour la guerre en Ukraine. Le seul moyen de stopper cette menace, en fait, c'est de dealer avec le régime ou de le renverser. Et c'est ça les deux options qu'aura Donald Trump d'ici 15 jours, c'est de dire, je m'arrête, je raconte à tout le monde que j'ai gagné la guerre, il fera comme Poutine, mais en réalité, il aura dealé avec le gouvernement, le régime des Mollahs qu'il consacrera au pouvoir, ou alors, et c'est ce qu'il espère encore, il y a une force en Iran qui prend le relais et qui renverse les gardiens de la révolution.
Vous venez d'écouter Guillaume Ancel, écrivain et ancien officier français, au micro de Marc-Aurèle Barrez. Second dossier, Emmanuel Macron, aux côtés de Volodymyr Zelensky à l'Élysée, a affirmé que la Russie se trompe si elle espère que la guerre au Moyen-Orient lui offrira un répit. Le président français a également minimisé la portée de la levée temporaire des sanctions américaines sur le pétrole russe. On l'écoute.
Rien ne nous détournera de l'Ukraine, des efforts que nous y faisons, laquelle fait face depuis plus de 4 ans avec une ténacité et un courage remarquable à l'agression de la Russie. Notre soutien ne faiblira pas. Je l'ai dit le 24 février dernier, les dynamiques actuelles signent d'ores et déjà un triple échec pour Moscou. Un échec stratégique, un échec économique, une faillite morale. Aujourd'hui, la Russie croit peut-être que la guerre en Iran va lui offrir un répit, elle se trompe. Nous avons, dans le cadre du G7 que j'ai tenu il y a 2 jours, mercredi, réaffirmé que le contexte de montée des prix du cours du pétrole ne doit en aucun cas amener à revoir notre politique de sanctions à l'égard de la Russie. C'est la position que le G7 a tenue, c'est la position évidemment de la France et de l'Europe. Il est aussi étrange de voir la Russie appeler à un cessez-le-feu au Moyen-Orient, alors qu'elle refuse depuis plus d'un an avec obstination tout cessez-le-feu, plusieurs fois présenté par le président Trump et d'autres pour l'Ukraine. Le 24 février dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté par 107 voix une résolution pour soutenir une paix durable en Ukraine, appelant à un cessez-le-feu immédiat, complet et inconditionnel. Cette résolution a été rejetée par la Russie, une fois encore. Elle ne défend pas la paix, nulle part.
Et vous venez d'écouter le président français Emmanuel Macron. Dernier dossier, la Grande Mosquée de Paris, organisée hier la 5e édition de son iftar des ambassadeurs en présence du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, qui est aussi en charge des cultes. Il a rappelé la vision qu'il a de sa fonction et a insisté sur l'importance du dialogue entre religion et État. On l'écoute.
S'il fallait résumer, je dirais que je suis un ministre des cultes qui dialogue avec toutes les religions, sans exception, sans distinction, sans modération. Chaque mot de ce triptyque a du sens. Sans exception, je ne mets au banc aucun culte. Sans distinction, je les traite et les considère de manière parfaitement équivalente. Je n'en favorise aucune, je n'en stigmatise aucune. Sans modération, ma conception de la charge des cultes est partisane d'un dialogue nourri entre l'État et les religions, plutôt qu'un État tenu à distance. En témoignent les très nombreux échanges que j'entretiens avec les représentants des cultes, ainsi que les invitations à laquelle je réponds présent autant que possible. Ma ligne de conduite, ma ligne de crête, fait preuve de la plus grande fermeté contre les fanatismes religieux, sans jamais tenir aucun discours, ni aucune position qui blesse, qui brutalise ou qui stigmatise. Toutes mes prises de position, mais comme celle du gouvernement français, s'analysent à la lumière de ce mantra. En définitive, je crois que ma manière d'être ministre des cultes ressemble en tout point à ma manière d'être ministre de l'Intérieur. Elle mise toujours sur la voie du dialogue et les mots qui apaisent. J'ai pu en mesurer encore les vertus lors de mon récent déplacement en Algérie. La force du dialogue est bien plus puissante que tous les bras de fer.
Et vous venez d'écouter le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.